Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors vous connaissez le nouvel horaire de l'émission Au cœur de l'histoire. Désormais, le rêve, l'évasion, l'aventure commence aussitôt après le journal de 13h et c'est forcément avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce sont des rêves glacés et des aventures dangereuses que je vous propose aujourd'hui puisque nous allons parler de ces espions qui venaient du froid pour reprendre le titre du best-seller de John Le Carré. Des agents secrets, parfois des agents doubles, en tout cas des hommes et des femmes du renseignement qui œuvraient dans l'ombre pour le KGB, parfois directement pour le Kremlin.
Alors relaté comme ça, on pense au film Another Country.
Exactement. Dans quelques minutes, je vais d'ailleurs vous raconter l'histoire de ces jeunes Britanniques issus du meilleur collège de Cambridge et qui ont inspiré ce beau film il y a 25 ans de ça déjà. Mm-hmm. Mais auparavant, je voudrais donner la parole à un grand témoin qui peut d'autant mieux évoquer l'histoire russe qu'il l'a vécu et vécu aux premières loges.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
C'était il y a 20 ans déjà. À la fin du mois d'août 1991, alors que Mikhail Gorbatchev, le réformateur de l'Union soviétique, s'apprête à signer un nouveau traité d'union, un traité qui est très favorable aux républiques non russes de l'URSS, un groupe de hauts responsables qui incarne la ligne ultra-conservatrice du parti et qui se fait appeler le Comité d'État pour l'État d'urgence, le GKCP, monte un putsch. Gorbatchev est assigné à résidence dans sa datcha en Crimée, tandis que le vice-président de l'Union soviétique, Gennady Yanayev, est nommé président par intérim. Ce coup d'État ne va pas durer, vous savez, ça va durer quelques jours. Enfin, en 48 heures, les putschistes sont débordés par des manifestations partout en Russie, des soulèvements attisés par le président de la Russie, Boris Eltsine, et non pas réprimés, mais largement soutenus par le gros des forces de l'ordre. On connaît la suite, le retour de Gorbatchev à Moscou, sa démission du poste de secrétaire général du parti et très rapidement le délitement et l'effondrement des institutions d'un empire soviétique à bout de souffle. 20 ans après ces événements, ce sont sans doute, je crois qu'on peut le dire, les événements les plus importants de notre histoire récente. 20 ans après donc, l'un des acteurs de cet épisode historique me fait l'amitié d'être dans les studios d'Europe 1. Vladimir Fedorovski, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ici.
C'est moi qui est très honoré.
Sitôt après les vacances, vous étiez un proche d'Alexandre Yakovlev, qui était l'inspirateur de la perestroïka de 1985 à 1990. Vous étiez chargé de la promotion en France de la politique gorbatchevienne. Or, au moment du putsch, vous êtes, vous, à Moscou, parmi les dirigeants du principal mouvement d'opposition au putsch. Est-ce que ce coup d'État, vous l'aviez vu venir ?
Ah, bien sûr, mais ça, je raconte volontiers, pour la première fois, s'il vous plaît, dans le roman de l'espionnage que je viens de sortir ici, sur les espions d'hier, d'aujourd'hui.
On va y venir dans un instant.
Et je vous signale que parmi ces espions, il y avait quelqu'un qui nous a prévenus du putsch de Moscou. C'était une taupe du KGB.
Et, oui.
Et finalement, c'est un homme qui a changé la cour de l'histoire, parce que comme ça, on pouvait mieux se préparer. Mais le putsch s'est échoué essentiellement parce que il y avait une évolution de ce pays, il y avait la perestroïka, il y avait le courage d'Eltsine, mais surtout que le ministre de la Défense n'a pas osé tirer sur la foule.
Russe, il faut bien dire, parce que Boris Eltsine avait littéralement galvanisé cette foule.
Complètement, complètement. Il y avait vous vous souvenez quand j'étais à côté de lui, quand il est monté sur le char, et ça comptait, évidemment. Détrompez-vous, ça aurait pu terminer bien autrement, dans la fleuve du sang, dans l'apocalypse mondiale, et ça s'est terminé plutôt agréablement. Ça confirme ma thèse.
Alors vous faisiez la navette entre ce qu'on appelle la Maison Blanche, rien à voir avec la Maison Blanche de Washington,
oui,
évidemment,
bien.
C'est cette espèce d'immense building où se trouvait donc la présidence de la Russie, et puis la mairie, enfin l'hôtel de ville de Moscou.
L'hôtel de ville, la mairie, et justement, là, c'était des journées très très bizarres. L'épisode est énigmatique, l'épisode est très bizarre. Et finalement, ça s'est terminé comme ça, parce que le ministre de la Défense, le putschiste, n'a pas osé tirer, et d'autre part, parce que nous avons eu une sorte de top au KGB, colonel Boris.
Voilà, il faut le citer, il faut le nommer.
Qu'il est prévenu. C'est les gens
combien
courageux.
De temps avant est-ce qu'il vous prévient?
Il nous a prévenu à partir du mois de juin. Mm-hmm. Et on a prévenu tout le monde, vous savez. On a prévenu Gorbatchev, Yakovlev, je l'ai amené chez Yakovlev, Gorbatchev, Eltsine, les Américains. Personne n'a bougé parce que chacun jouait une sorte de jeu. Vous savez, dans ces moments de rupture de l'histoire que j'aime raconter hier comme aujourd'hui, il y a souvent ces personnages très bizarres qui changent avec, soi-disant, peu de choses, le cours de l'histoire.
Mais alors, si une taupe vous avait vous prévenu, si vous aviez transmis l'information en Occident, on comprend très bien la réaction du président américain George Bush, par exemple, suivie de près par le premier ministre britannique. On comprend moins celle du président Mitterrand qui, pendant quelques heures, a donné un certain crédit aux putschistes.
Ah, moi, ça m'a beaucoup blessé, parce que j'ai bien connu Mitterrand. Et je dois vous dire que le président français, il a parlé de nouveaux dirigeants russes.
Oui, ça,
à propos.
Il a dit les nouveaux dirigeants.
Les nouveaux dirigeants russes. De fait, il a reconnu les putschistes. Et franchement, ça reste une blessure, pour moi, presque incompréhensible, la plus grande gaffe de Mitterrand, que Mitterrand a commis. Mais finalement, après, il m'a expliqué qu'il a voulu surtout sauver Gorbatchev parce qu'il s'est inquiété pour son destin.
Alors avant de revenir en votre compagnie, évidemment, Vladimir Fedorovski, sur un certain nombre de ces espions et espionnes dont vous nous
s'il
avez...
S'il vous plaît, il y en a beaucoup, d'hier et d'aujourd'hui.
Je vous propose
d'aujourd'hui
de nous attarder un moment sur les plus mythiques, les plus incroyables d'entre eux, ces 5 agents, tous britanniques, tous au service du KGB, qu'on a appelés les 5 de Cambridge.
Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film de 1966 d'Alfred Hitchcock, Le rideau déchiré.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
De 13h à 14h sur Europe 1, vous êtes toujours en compagnie de Franck Ferrand. Place maintenant au récit consacré aujourd'hui aux espions qui venaient du froid.
Alors, si vous aviez été à Londres le 7 juin 1951, vous n'auriez pas pu échapper au titre à sensation du jour, beuglé aux portes des gares et des stations de métro par les habituels marchands de journaux. Deux diplomates britanniques s'étaient fait la malle ce jour-là. Le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté, George VI, les suspectait tous deux d'avoir gagné l'Union soviétique via la France et la Suisse. Vous m'avez compris, les deux diplomates en question étaient des traîtres à leur pays, des agents de renseignement à la solde de Staline. Ils s'appelaient Maclean et Burgess. Ils avaient eu accès à de nombreux dossiers secrets, et pire que ça, Burgess avait carrément fait partie des services secrets britanniques. Un agent double, donc, une catastrophe pour le camp occidental en ces temps de durcissement de la guerre froide. Avec les années, on allait apprendre peu à peu qu'en vérité, Burgess et Maclean n'étaient que deux des 5 membres d'un groupe légendaire, sans doute les indicateurs soviétiques les plus efficaces jamais recrutés. Ce groupe s'était constitué à Cambridge dans les années 1930 et à Moscou, on les appelait les 5 de Cambridge ou simplement « The Five », mieux « The Magnificent Five ». Leur nom, Guy Burgess et Donald Maclean, donc, mais aussi Anthony Blunt, John Cairncross et surtout Harold Philby, surnommé Kim. Je dis surtout car ce Philby, véritable légende de l'espionnage, va réussir sans doute les plus grands exploits dans le genre, si tant est qu'on puisse parler d'exploits. Leur incroyable aventure commence donc au sein de ce décor pompeux d'une des universités les plus prestigieuses de Grande-Bretagne et du monde, le fameux Trinity College de Cambridge, fondé au XVIe siècle par Henri VIII, fréquenté essentiellement par la plus riche aristocratie du Royaume-Uni. Paradoxalement, c'est dans ce cadre doré et sur tranche que va se développer, dans les années 30, un mouvement favorable au communisme en général et à l'Union soviétique de Staline en particulier. Une URSS, il faut bien le dire, très idéalisée dans l'esprit de ces jeunes gens de bonne famille qui projettent finalement sur cette image russe et soviétique l'infini de leur fantasme révolutionnaire. L'un des plus exaltés de ces jeunes communistes de Cambridge s'appelle Philby. Il est prénommé Harold, mais en fait ses familiers ne l'appellent que par son surnom Kim, un surnom que lui a donné son père, haut fonctionnaire colonial au Pendjab, par référence au héros de Rudyard Kipling. C'est d'ailleurs une ironie de l'histoire, ça, parce que dans le roman de Kipling, Kim est un petit orphelin qui va devenir espion au service de la couronne britannique. Un espion très fidèle, finalement, et impliqué dans ce qu'on appelle le grand jeu au XIXe siècle, c'est-à-dire cette sourde rivalité coloniale entre l'Angleterre et une certaine Russie. Eh bien, le deuxième Kim, si j'ose dire, celui qui nous intéresse, va devenir espion à son tour. Et quel espion ? Mais lui va choisir de servir, et de servir jusqu'au bout, la Russie. C'est son professeur d'économie, le célèbre Maurice Dobb, qui est un théoricien marxiste, fondateur en Angleterre du Parti communiste. C'est Dobb qui a convaincu Philby, à tel point qu'à l'été 33, le jeune homme n'a plus qu'une idée en tête, devenir un agent, on dit un illégal du Comintern, c'est-à-dire l'international communiste. Il part s'installer à Vienne, il tombe éperdument amoureux d'une jeune étudiante divorcée qui s'appelle Lizzie Friedman, et surtout, il rencontre en Autriche un personnage, personnage tout à fait étonnant, doué d'un fort magnétisme, un juif autrichien qui sert de recruteur d'agents pour le Kremlin. Il s'appelle Arnold Deutsch. Deutsch est à la recherche de jeunes britanniques capables d'infiltrer les milieux bourgeois. Vous savez que c'est le terme employé par les communistes pour désigner les élites capitalistes, y compris les aristocrates. Il fallait infiltrer ces élites. Eh bien, Deutsch se dit que Philby pourrait tout à fait faire office d'agent. Philby rentre donc en Angleterre, il aide Deutsch à trouver des recrues et le premier à les rejoindre, c'est un gros poisson si j'ose dire, c'est le jeune Donald Maclean qui est le fils d'un ancien ministre haut dignitaire de l'Empire britannique. Maclean voulait devenir universitaire, ah oui mais seulement ça, ça fait pas du tout les affaires de son nouvel employeur, de son recruteur. Sur les conseils de Deutsch et de Philby, il passe le concours du Foreign Office et commence très tôt à infiltrer les arcanes de l'État en vue d'informer Moscou. C'est une véritable connexion qui est en train de se mettre en place. Vous allez voir que ce n'est qu'un tout début.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui retrace aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire incroyable de jeunes Britanniques issus du meilleur collège de Cambridge et devenus agents pour la Russie, Franck.
Agents pour la Russie soviétique, tout à fait, Julia. Alors, le principal d'entre eux, c'est Kim Philby, sur lequel nous allons nous attarder un peu. Il a déjà réussi à recruter donc Maclean, qui, comme pas mal de jeunes gens de cette élite de Cambridge, est homosexuel. L'un des amants de Maclean, c'est Guy Burgess, un tout jeune historien très prometteur, et Maclean le convainc de rejoindre le groupe, ce qui fait que Burgess va bientôt mettre son carnet d'adresses et les informations qu'il recueille dans la haute société britannique au service de Staline. En 1936, il est devenu ce Burgess producteur à la BBC et il enrôle à son tour un autre de ses amants, le jeune et brillant Anthony Blunt, qui est historien d'art. Quant au cinquième homme des Magnificent Five, on ne connaîtra l'identité de cet homme que très tard, en 1990, 5 ans seulement avant sa mort. Il est écossais, il est mort d'ailleurs dans le sud de la France, il s'appelait John Cairncross. Lui n'est pas homosexuel, comme Philby du reste, mais il est originaire d'un milieu très modeste, ce qui fait qu'il a développé très tôt une sorte de sentiment de revanche, voire de haine de cette haute aristocratie britannique. Ça devait, et anglaise, hein, il est écossais après tout d'origine, tout ça devait faciliter son adhésion au communisme. Revenons donc au cas de Kim Philby. pendant des mois et même des années, il n'est pas en situation de confier de renseignements à ses contacts soviétiques. Eh bien, peu importe, Moscou n'est pas pressé. L'essentiel, c'est qu'il se forme, qu'il se prépare à devenir une taupe d'exception. Or, Kim en profite, évidemment, c'est un personnage très très intelligent. Il apprend l'arabe, il infiltre les milieux anglais ultranationalistes et même pro-nazis. Il devient correspondant du Times en Espagne, en pleine guerre civile. Ça, c'est l'occasion quand même de fournir ses premiers renseignements à Moscou. Au passage, pour donner des gages, il est amené à encenser Franco à longueur d'articles, et ce, dans les colonnes du Times. Avouez quand même que c'est un curieux moyen de servir l'Union soviétique que d'écrire des articles à la gloire de Franco dans le Times. Mais enfin bon, les voix de Staline sont impénétrables, n'est-ce pas ? Je ne pourrais pas le préciser à chaque fois, mais inutile de vous dire que le séducteur Kefilby ne s'ennuie pas entre deux missions. En Espagne, il devient l'amant d'une ancienne actrice canadienne, française, et on va multiplier les conquêtes de ce côté-là. Il va finir cette guerre civile décorée de la main de Franco, qu'il a finalement renoncé à assassiner. On a pu penser un moment qu'il allait le faire. De quoi asseoir sa réputation au sein de la droite conservatrice britannique. Survient bientôt la Seconde Guerre mondiale. Et désormais, pour Moscou, les cinq de Cambridge vont revêtir une importance capitale. Alors, Kim se retrouve au début de la guerre correspondant du Times à Arras. On est pendant la drôle de guerre. Il s'ennuie, se sent inutile. Heureusement pour lui, drôle de renvoi d'ascenseur, Anthony Burgess va bientôt le faire entrer dans les services secrets britanniques, en pleine guerre, vous imaginez. Du reste, Burgess est bientôt, lui, renvoyé de ses services à cause de ses extravagances et de ses beuveries. À Moscou, on souffle. Heureusement, il avait eu le temps de faire entrer Philby. Que fait Kim pendant la guerre? Il est d'abord instructeur dans une école de sabotage, puis il entre à la section du contre-espionnage. Vous allez me dire, c'est quand même un peu léger de la part des hauts responsables du Secret Intelligence Service. Après tout, ce garçon était connu pour avoir eu des sympathies communistes, puis pro-nazis. Il avait été journaliste et même polémiste. Ce n'est pas spécialement le profil de quelqu'un à qui on confie des missions ultra-secrètes de haut niveau. Peut-être, mais n'oubliez pas qu'aux yeux des Anglais de l'époque, il était surtout un jeune homme de bonne famille, diplômé de Cambridge, décoré par le général Franco, bref, un gentleman. Et, n'est-ce pas, un gentleman ne trahirait jamais. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de 1941, les intérêts de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique dans la guerre concordent. Ce qui est pratique, Kim est un agent très efficace, notamment il va lutter contre les sous-marins allemands, vous savez, les U-boats. Sa vie privée est toujours un peu agitée, il divorce de sa première femme, il épouse la très belle et très brune Aileen Firth, dont il aura 5 enfants. Évidemment, la situation change avec la fin de la guerre. L'Angleterre, du jour au lendemain, devient l'ennemi, et surtout que c'est l'Angleterre de Churchill, même si Churchill quitte le pouvoir aussitôt après la guerre, avant d'y revenir. On crée une section spéciale de l'Intelligence Service pour étudier les activités soviétiques et communistes. Ces contacts à Moscou vont pousser Philby, bien entendu, à infiltrer cette nouvelle section. Alors il se montre d'un cynisme là et d'une duplicité incroyable. Il monte une cabale contre son supérieur, Kaugel, qu'il pousse à la démission. Il devient chef de la section 5 du SIS et il s'arrange pour faire fusionner cette section avec la fameuse section 9, celle qui l'intéresse. Voilà comment une taupe de Moscou se retrouve à la tête de la principale section du Secret Intelligence Service. Il n'est pas le seul, hein, n'oublions pas. MacLean au Foreign Office est en possession d'un nombre incroyable de secrets d'État. Burgess continue ses missions d'information dans la haute société. Quant à Cairn Cross, il va se retrouver en 1947 en situation d'avoir un regard direct sur les documents anglo-américains qui concernent la bombe atomique. À Moscou, on n'en revient pas. Ça n'exclut pas quelques sueurs froides. En août 1945, notamment, le patron du SIS, Menzies, convoque Philby et lui remet un rapport parce qu'à Istanbul, un agent secret soviétique qui s'appelle Volkov a demandé à passer à l'ouest. Et en échange, il propose de livrer le nom de 3 taupes soviétiques très bien infiltrées. Philby épluche le rapport. Aucun doute, les 3 taupes en question vont être MacLean, Burgess et lui-même. Alors que faire? Eh bien, il demande à se charger lui-même de l'affaire et à la suite de tout un ensemble de rebondissements, il finit par décoller pour Istanbul. Il prend son temps, évidemment, Philby. Il passe par Tunis, par le Caire, il arrive le vendredi, on lui dit que l'ambassadeur est en week-end, eh bien ça attendra lundi. Et le lundi, quand enfin il a l'autorisation d'intervenir et qu'on appelle le bureau de Volkov au consulat soviétique, eh bien c'est une voix féminine qui répond « Ah, Volkov est à Moscou !» Les camarades de Kim ont eu le temps d'intervenir. L'alerte passée, Kim rentre en Grande-Bretagne. Il arrive à se faire nommer à l'ambassade à Washington. Vous imaginez, poste d'observation inespéré, source abondante de renseignements et mieux que ça, moyen de tenir les Anglais. Parce que désormais, quoi qu'on apprenne sur son compte, on ne pourra plus l'attaquer ouvertement, on ne pourra plus l'accuser de trahison. Comment est-ce qu'on expliquerait aux Américains qu'on leur a envoyé à Washington une taupe soviétique ? Je vous signale entre parenthèses que dans la foulée, MacLean est lui aussi nommé à l'ambassade de Grande-Bretagne à Washington. Il est en charge du comité de coordination pour les questions atomiques, on croit rêver. Le rôle de Kim, du reste, ne se limite pas aux renseignements. Il est aussi opérationnel. On retrouve là son activité du temps de la guerre. Il va notamment faire échouer une opération conjointe de la CIA et du SIS contre l'Albanie d'Enver Hoxha, ce qui reste très dur, hein, puisque ça va faire beaucoup de morts dans les rangs anglo-saxons. En août 1950, c'est au tour de Burgess d'être nommé, je cite, « premier secrétaire de l'ambassade britannique à Washington ». Seulement dès février 51, le SIS soupçonne un membre du Foreign Office d'espionnage. Philby informe son copain Burgess, mais aussi MacLean. Et ça va être l'origine de cette fameuse fuite à Moscou des amis de Kim, celle par laquelle j'ai commencé ce récit. Philby, de son côté, va pouvoir continuer d'exercer sa coupable industrie, je crois que le terme n'est pas de trop, pendant 12 ans. Il est vrai qu'il n'existe aucune preuve contre lui, mais il est évident qu'à la suite du scandale Burgess-MacLean, il a été longuement interrogé. Seulement, je vous l'ai dit, il a bénéficié de ce paradoxe qui fait qu'on ne peut pas annoncer aux Américains qu'on a longtemps nourri une taupe soviétique. Néanmoins, peu à peu, les taux se resserrent quand même. Et le 23 janvier 1963, Philby et sa femme sont conviés à un dîner autour de Londres. En route, Kim arrête le taxi. Il dit à sa femme qu'il a oublié d'envoyer un télégramme. Il doit faire demi-tour, qu'elle continue sans lui. Il la rejoindra. Il descend. Elle se rend seule à la réception et évidemment, il ne la rejoindra pas. Les 25 années qui lui restent à vivre, Kim Philby va les passer à Moscou où, du reste, après son deuxième divorce, il finira par épouser l'ancienne femme de MacLean. Histoire absolument inouïe, Vladimir Fedorovski. Quand vous-même, vous aviez rendez-vous avec le grand écrivain Graham Greene, spécialiste de ces questions d'espionnage, il vous accueillait ? Dans quel terme ?
Oh, il me disait toujours... Quelle nouvelle de Philby !
Au cœur de l'histoire, reviens dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Moi-même, j'ai trouvé du travail à la CIA. Je dois remplacer l'espion qui venait du froid. Soyez indulgents, je débute dans le métier. C'est ma première mission et je suis intimidé. Mais j'ai sur moi le mot de passe qui doit me guider. À tous les espions du quartier, c'est tchou-tchou, tchou-tchou, tchou-bogey, wou-wou, wou-wou, tchou-bogey, tchou-tchou, tchou-tchou, tchou-bogey. C'est le sésame, ouvre-toi. Je vais recevoir la visite d'un agent double. Dans sa loge, ma concierge subit l'interview d'un petit homme en béret qui veut me parler. Elle lui dit c'est pour l'espion monté au premier. Et passez sur le paillasson, essuyez vos pieds avant de sonner, déclarer. Hey, tchou-tchou, tchou-tchou, tchou-bogey, wou-wou, wou-wou, tchou-bogey.
Eddie Mitchell sur Europe 1 avec Chou Chou, Boogie, Espion, Bidon à titre de 1975. Je vous épargne le fait de la chanter, Franck. C'était
oui,
mieux pour tout le monde.
Puisque vous l'aviez dansé, j'aurais presque pu la chanter.
Europe 1.fr, juste pour préciser, la page FB de l'émission pour tous les auditeurs pour qu'ils puissent réagir.
C'est ça. Et qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer leurs questions. Il y en a évidemment beaucoup, d'autant plus que l'ouvrage de Vladimir Fedorovski, qui s'appelle Le roman de l'espionnage, dans la célèbre collection Le roman des lieux et destins magiques de Vladimir Fedorovski aux éditions du Rocher, cet ouvrage évoque toute l'histoire de cet espionnage soviétique. Alors, on peut dire
pas
même...
seulement soviétique, s'il vous plaît. Le roman de l'espionnage, détrompons, non. Ça couvre, vous savez, ça couvre en réalité toute une période, la face cachée du XXe siècle. Vous avez évoqué Graham Greene. Ensemble, il y a beaucoup d'années, nous avons fait la liste. C'était 10 espions qui ont changé le siècle. Mm-hmm. Il y avait les Occidentaux, il y avait votre Philby, il y avait d'autres choses. Et il m'a prévenu d'une chose. Et je ne voudrais pas que nos auditeurs se trompent sur la marchandise, comme on dit. Parce que vous savez, il m'a dit, il pense que c'est un livre sur l'espionnage. Mais pas du tout. Ce que tu vas écrire, tu vas écrire sur l'amour. Et lui, il m'a dit, finalement, j'ai écrit toujours sur les femmes, soi-disant les romans de l'espionnage, mais derrière, il y a mystère, amour et évasion. Et c'est le sens de romans d'espionnage que je sortis hier, s'il vous plaît.
Douce et grand, oui, merci de nous en réserver la primeur. Douce et grand roman, évidemment, de John le Carré et de Graham Greene. Douce, tous ces films, etc. Alors, quand même, Mon Philby, comme vous dites, il a été particulièrement efficace. Ce qui est inouï, c'est qu'à partir de 1963, il vit à Moscou. Il ne mourra qu'en 1988. Mais qu'est-ce qu'il fait à Moscou pendant tout ce
temps? Il n'a jamais regretté. On m'a raconté qu'on lui a acheté non seulement la moutarde anglaise, mais tous ses costumes ont été taillés par les soins des espions. Là-bas, ils allaient à Londres pour acheter ces costumes. Mais, vous savez, je vais vous dire, Philby, c'est vrai, vous avez eu raison de choisir Philby. Parce que c'est une période extraordinaire. Il y avait, à ce moment-là, Staline a eu le meilleur service secret du monde et les documents les plus secrets concernant Stalingrad, concernant la Deuxième Guerre mondiale. Il arrivait sur le bureau de Staline avant qu'il arrive chez Churchill. Alors, et ça, c'est extraordinaire quand même.
Staline avait des espions pas seulement au cœur de la haute société britannique. On peut dire que les Anglais étaient quand même particulièrement caviardés, si je puis dire.
C'est vrai, mais je vais vous dire, ce qui m'intéressait quand j'ai évoqué ces gens-là, finalement, c'est les personnages un peu à la Dostoïevski, ambivalents, la face, c'est plus la psychologie. Graham Greene, il parlait de l'amour. Pour moi, c'est justement l'ambivalence de ces personnages. Vous connaissez mais ce que je fais, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les coulisses, la face cachée de l'histoire, le roman de Saint-Pétersbourg, quand je faisais la face cachée. Alors, et la face cachée de l'âme humaine. En Philby, il y a cette ambivalence que je retrouve parfois au sommet. Vous savez, tout ça, c'est très intéressant. Les hommes d'État aussi.
Il y a eu des espions, mais aussi de belles espionnes. On va y venir dans un instant.
Oui,
on va y venir dans un instant.
Aujourd'hui encore.
Mais dans le groupe des cinq de Cambridge, pour clore ce chapitre, il y avait trois homosexuels célèbres. MacLean, Burgess et Blunt.
Absolument. Mais Staline, vous savez comment ils appelaient les pires moments, quand il y avait désespoir à Stalingrad, ils convoquaient Beria,
le terrible.
Le chef. Il faut demander à notre homme interne. Il ne les appelait pas comme interne, mais homme interne. Et c'est vrai que c'était les gens. C'est la psychologie de ces gens-là qui est la plus intéressante. Ils bravaient les habitudes. Ils allaient vraiment dans l'abîme avec leur désir. Leur désir, notamment sensuel. Et il ne faut pas se leurrer, peut-être c'était la meilleure couverture pour l'espionnage.
Et les espionnes, alors?
Les espionnes, moi, j'aime deux. Les deux. Celle que je préfère, c'est une copine d'Eva Braun. Vous ne la connaissez pas du tout. Il a informé Staline sur la face cachée. Vraiment, il a proposé à Staline de tuer Hitler. Et finalement, c'est Staline qui a pris la décision de ne pas le tuer.
Hitler avait une espionne dans l'immédiat entourage de Hitler, en fait.
Staline avait complètement une copine d'Eva Braun, une femme bellissime, extraordinaire.
Il faut la nommer.
Dire que dans l'Orchestre Rouge, il y en avait beaucoup.
Ce que vous appelez l'Orchestre Rouge, il faut dire aux auditeurs ce que c'est que cet Orchestre Rouge.
Absolument. L'Orchestre Rouge, c'est un système, peut-être, des espions illégaux. Il y avait carrément le réseau qui s'appelait comme ça. Mais plus généralement parlant, c'est les gens qui ont travaillé à partir de considérations idéologiques par Staline. Mais vous savez, les grands espions, soyons très clairs, c'est pour ça que je parle aussi des Occidentaux. Par exemple, le plus grand espion occidental que je raconte, au fait, qui s'appelait Farwell, qui a travaillé pour le DST autrefois, qui était recruté par le DST, il n'a jamais pris l'argent. Et quand on Philby, on a proposé l'argent, il a dit « à moi l'argent ». Vous rigolez, il travaillait à partir justement de quelque chose de bizarre, une sorte d'idée, bien sûr, souvent, illumination, souvent. Et ces femmes-là, par exemple, Olga Tchekhova, cette actrice.
Olga Tchekhova, c'est le nom de cette...
C'est la nièce de dramaturge Tchekhov, d'origine russe quand même, mais copine d'Eva Braun, elle n'a jamais pris l'argent. Vous voyez, mais quand vous parlez d'hier, je vous précise que c'est aussi, le roman de l'espionnage, c'est aussi un livre d'actualité. Parce qu'il y a une année, juste une année, peut-être tous les journaux du monde, on vous souvenait cette photo d'une femme dénudée, arrêtée aux États-Unis, qui a pénétré l'administration, de Churchill, mais d'Obama, d'aujourd'hui. Anna Chapman, ça c'était quand même les femmes, les intellectuels, je vous prive des détails, mais le milieu intellectuel était aussi pénétré en Occident. Tout ça comptait, évidemment, les femmes. N'oublions pas qu'il y avait un système de Roméo aussi, Roméo les hommes, qui draguaient les femmes qui ont accès au secret. Ça, c'était une spécialité plutôt des services secrets est-allemands. Alors, vous voyez, il y avait une
Pour revenir à Anna Chapman, oui. Elle est donc la digne descendante de toute la longue tradition du GPU, évidemment du NKVD d'abord.
Bien sûr.
Et puis, du KGB. Aujourd'hui, on appelle ça le FSB, le service de renseignement.
FSB, oui, bien sûr. Mais vous savez, je vais vous dire, Anna Chapman, bien sûr, elle n'est pas à la hauteur des gens que vous racontez. Elle a donné quelques informations, elle était belle, mais c'est plus un épisode pittoresque. Mais si vous voulez la sensualité, vous êtes bien servi par un autre grand agent du siècle, Sorge.
Et bien sûr.
Sorge qui a sauvé. Pourquoi je raconte ça? Évidemment pour la psychologie, pour raconter les histoires d'amour, mais aussi parce que chaque personnage que je raconte a changé la face du monde.
Dites-nous un mot de Sorge.
Sorge, je vais vous dire, Hitler était à 6 km du Kremlin. Staline, elle était désespérée. Et à ce moment-là, une sorte de playboy qu'il a placé au Japon, qui a partagé sa vie sentimentale avec, s'il vous plaît, la maîtresse du premier ministre japonais. Évidemment, il a eu accès à tous les secrets. Il a dit, le Japon ne va pas attaquer l'Union soviétique, il va attaquer les Américains. Et finalement, c'est ça qui a sauvé Moscou, et c'est ça qui nous a sauvés tous. Parce que sans Sorge, qui sera pendu, sans ses exploits, vraiment de renseignement, et sans ces exploits, si on me permettait, sensuels, on n'aurait pas pu avoir ils ont gagné la bataille contre Hitler.
L'une des conclusions que vous tirez, Vladimir Fedorovski, c'est que ces espions ont fait la politique du 20e et maintenant probablement du 21e siècle. Ils ont eu un rôle plus important qu'on l'imagine. Le plus célèbre d'entre eux, si je puis dire, est carrément devenu le premier ministre, d'abord président, puis maintenant premier ministre de la Fédération de Russie, c'est Vladimir Poutine lui-même.
Ah, ça, vous visez juste. Et ça, je vous signale. Je vais vous dire. Moi, j'ai dîné une fois à Poutine, avec Poutine, plusieurs fois, mais j'ai dîné il y a beaucoup d'années à Saint-Pétersbourg. Et puis, il a commencé à copier mes gestes. Je me suis renseigné. Pourquoi? Parce que c'est une technique d'espionnage. Et puis, un président occidental m'a raconté qu'il continue à copier les gestes dans les négociations aujourd'hui. Il utilise la technique d'espionnage. C'est vrai. Ça, je suis d'accord avec
vous. Cette fois-là.
Il faut dire que Poutine, c'est la confirmation que les James Bond existent et... Je vais être franc avec vous, c'est l'homme fort de la Russie qui dirige cette Russie comme organisation du spectre. Vous vous souvenez, les films de James Bond.
C'est James Bond qui deviendrait roi d'Angleterre.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
L'oiseau de feu composé par Igor Stravinsky, Franck.
Igor Stravinsky, ou plutôt, pardon, Vladimir Fedorovski est notre invité aujourd'hui. Au
hommage à la Russie sur Europe 1.
J'aurais bien aussi, aimé aussi recevoir Stravinsky, quoique je crois qu'il ne parlait pas beaucoup. Mais le roman de l'espionnage, c'est aux éditions du Rocher. Alors, puisque nous
sommes... Le roman de l'espionnage, c'est sorti hier.
C'est sorti hier, oui. Et c'est donc disponible...
Primordial.
Merci beaucoup, Vladimir. Alors, puisqu'on était dans la musique et les artistes, il y a un personnage dont vous parlez, un chapitre qui s'appelle Le Sceau de la Liberté, personnage qu'on a tous plus ou moins connus, grand danseur, l'un des plus grands danseurs du XXe siècle, évidemment, c'est Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev qui, en 1961, va quand même déjouer les plans du KGB.
Oui, c'est vrai que dans le roman de l'espionnage, je raconte aussi les artistes. Et les artistes, il y a vraiment quelqu'un qui m'est cher, Nureyev, qui est... C'est une grande émotion pour moi. Nureyev qui a fait une sorte de saut de la liberté en devenant une sorte de personnage, je dirais, presque symbolique de la lutte contre le régime totalitaire. Il y a un autre que je voudrais citer, Mikhaïl Roudy, parce qu'en même moment, c'est les jeunes gens qui voulaient, le pianiste. Mikhaïl Roudy. Et ça, c'est les jeunes gens qui voulaient vraiment affronter ce régime, mais qui n'étaient pas les hommes politiques ou quelque chose comme ça.
Alors, il faut dire ce qui se passe. On est en mai-juin 1961, le Kirov organise une grande tournée en Occident, et il doit y avoir après la France des spectacles à Londres, etc. Et donc, le Kirov arrive à Paris avec la vedette, le danseur étoile par excellence, Rudolf Nureyev, que le KGB ne voulait pas laisser sortir initialement.
Absolument. Et puis, enfin, finalement, c'est l'impresariat qui est intervenu. J'ai connu bien cet impresario qui s'appelait Fernand Lombroso. Et il est venu. Il commence à danser, mais il ne joue pas le jeu. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ce qui est étonnant.
Qu'est-ce que ça veut dire jouer le jeu?
Jouer le jeu, faire semblant, plier aux règles soviétiques. Il sort tout le temps, il sort avec les amis. Et finalement, il propose à Nureyev de rentrer. Il est un peu affolé de ne pas aller continuer la tournée. Il est affolé. Et à ce moment-là, il ne sait pas quoi faire. Il est coincé par les gens du KGB à l'aéroport, à Bourget. Et finalement, il a eu une sorte d'audace à ce moment-là. Au lieu, encore une fois, d'accepter de voyager, il a fait un saut.
Mais alors, avant de faire ce saut, il convoque, si l'on peut dire, la fameuse Clara Saint, qui est la belle-fille du ministre des Affaires culturelles, André Malraux.
Bien sûr, Clara Saint a joué un rôle parce qu'elle a prévenu les services secrets, cette fois-ci, français. Ils ont été tous là, de deux côtés de la barrière, et un saut vers la liberté, physiquement.
C'est-à-dire qu'en elle arrive, Clara Saint, avec des policiers français en civil. Lui est entouré d'agents soviétiques, en fait, le jeune Rudolf Nureyev.
Il saute
comme on fait sur la scène d'un opéra.
Absolument, c'est un des plus grands sauts. Après, bien plus tard, vous savez, je vais vous dire, il m'a raconté ça en détail, parce que je l'ai bien connu d'une manière assez particulière.
Nureyev.
Parce que quand on a commencé ce processus de la liberté, de la libération là-bas, on a voulu se réconcilier. Et deux choses que j'ai vraiment fait pour changer l'image, on a organisé le retour de Nureyev là-bas en Russie, et le retour aussi de Mikhaïl Roudy, au fait. Et ça a joué un rôle, c'est les conversations et les images incroyables. Je voudrais juste vous raconter l'image. On était chez cet impresario qui a joué un rôle essentiel dans cela, André Tomaso, chez lui. On a beaucoup bu le vin d'Alsace avec Nureyev, et à ce moment-là, c'était la nuit, 3h du matin. Il a commencé à danser. Il a fait un saut symbolique, mais dans un autre sens, pour soutenir ce qu'on faisait, pour soutenir la liberté. Et après, il a eu vraiment les ovations inoubliables, puisqu'il est rentré là-bas en tournée. Il est devenu la plus grande vedette. Vous voyez, le roman de l'espionnage, c'est pas seulement les espions, mais c'est aussi l'utilisation de ces méthodes de manipulation pour, parfois, en faveur de la liberté. C'était le cas avec Nureyev.
Et justement, pendant ce quart de siècle, entre 1961 et 1987, que de souffrance pour Nureyev, qui ne revoyait pas sa famille, évidemment, sa mère, notamment.
Évidemment, ils ont essayé de manipuler sa mère. Il m'a dit, j'ai beaucoup souffert. Vous savez, je vais vous dire ce qui est impardonnable pour ce régime. Parce que, vous savez, c'est les gens qui n'étaient pas les politiques. Il était apolitique par excellence. Et on a fait souffrir ce génie pour rien. Vous voyez, finalement, le saut de la liberté dans un sens, c'est qu'ils ont bravé toutes les affaires d'espionnage. Et finalement, c'est pour ça que j'ai inclus ces artistes, non seulement parce qu'ils ont été parfois utilisés, les artistes qui ont été utilisés dans le
bien sûr, oui.
Mais cette fois-ci, pour moi, c'est vraiment un défi symbolique face à les forces noires qui sont dans ce roman d'espionnage.
Par Internet, Patrick nous demande, avec Internet et Wikileaks, est-ce que l'espionnage a encore une utilité?
Oh, évidemment, plus que jamais. Vous savez, je vais vous dire, les Américains, ils ont essayé d'utiliser seulement la technique, et finalement, ces derniers temps, ils reviennent à l'infiltration. Et je pense que l'espionnage, même avec Poutine, mais même avec Madame Chapman, ce Matahari de temps moderne, ils ont beaucoup de l'avenir devant eux, parce que le facteur humain est toujours là.
Le roman De l'espionnage aux éditions du Rocher, c'est donc signé Vladimir Fedorovski, qui, comme vous avez pu le constater, n'a pas perdu sa merveilleuse verve.
Et surtout puis... mon accent, le roman de l'espionnage, c'est mon accent.
Qui fait partie du personnage, il ne faut surtout pas le perdre. C'est comme Jane Birkin, on ne vous reconnaîtrait plus. Et puis, je voulais citer également une exposition, alors qui n'est pas encore commencée. Elle sera inaugurée le 2 décembre prochain par la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine. L'exposition aura lieu à l'Hôtel National des Invalides. Ça s'appelle URSS fin de partie, avec le E de partie entre parenthèses, les années perestroïka de 1985 à 1991. J'imagine, Vladimir Fedorovski, que vous n'avez pas été étranger à cette célébration.
Je suis très fier de ça. C'est pas seulement Nureyev, mais c'est la sortie de Sakharov, c'est la venue Nureyev. C'est une merveilleuse période qui défie toutes ces forces sombres du roman de l'espionnage.
En attendant, si ces forces sombres-là ont disparu, malheureusement, d'autres ont pris le relais. Et vous pouvez faire confiance à tous ces services pour être encore, j'allais dire, plus actifs que jamais. Je suis certain qu'elle n'est pas espionne. Bonjour Elena Morna.
Non mais bonjour Franck, mais je pourrais avoir l'accent de mon pays aussi et vous parler comme ça.
Bravo.
Bonjour à tous. Alors pour vous parler de l'émission du jour, je vais vous poser une question Franck. Comment ça se passe avec votre patron? Est-ce que vous aimez d'amour ou au contraire vous piquez des poupées en secret parce que vous le détestez?
J'ai la réputation d'être assez difficile, mais pour tout vous dire, avec l'actuel patron d'Europe 1, ça se passe très très bien.
Bien, alors aujourd'hui, nous allons justement parler de ces relations avec nos patrons. Que faire quand ils nous empoisonnent la vie? Eh bien, nos experts vous apporteront toutes les réponses.
Pourquoi vous ne m'avez pas invité avec Gorbatchev? J'aurais pu vous raconter.
Vous reviendrez une prochaine fois,
Vladimir. Vous
êtes l'invité permanent d'Europe 1.
Et c'est vrai. C'est vrai que Mikhail Gorbatchev, on va le voir pas mal. Hein.
J'aurais pu vous raconter.
Ces temps-ci, à la télévision, on va l'entendre à la radio. Et il a été, je pense, plus qu'un patron pour vous. Ça a été un personnage très important. On n'a malheureusement pas le temps d'en parler maintenant, Vladimir. Mais je suis certain que vous reviendrez pour en parler.